Merci.
Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Le Spacecast qui est avec vous jusqu'à 22h. Jean-Francis n'est pas là ce soir, vous l'aurez remarqué si vous êtes là depuis quelques minutes, si vous venez de vous joindre à nous, ben il va très très bien. Il est juste en congé, il a décidé de prolonger le long week-end et ce soir je suis accompagné de Jessica Kelly qui est là pour la première fois dans le Spacecast ce soir et c'est très cool.
C'est mon baptême!
Oui madame, vous êtes officiellement baptisée à Maman Oulérienne.
Ben c'est vrai que t'as un petit air de Jésus.
Oh, c'est dans les cheveux, hein?
Ouais.
Les cheveux, la barbe, tout.
Ouais, exact.
Mal rasé sur le side, un peu fucked up. C'est... Écoute, je sais pas si c'est un compliment, mais je vais le prendre. Sans plus tarder, on va aller rejoindre notre chroniqueur du Un mardi sur deux, le même soir que Yann Monette, qu'on adore, Max Dionne. Yo!
Salut, ça va?
Ben oui, toi?
Oui, ça va bien. Puis j'étais en train de me rendre compte que justement, un mardi sur deux, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais enrhumé. Je te confirme qu'il reste des petites traces là, dans le fond de la gorge que je me racle. Là. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pogné, mais c'était tenace.
Oui, mais je me rappelle, la dernière fois quand on t'a parlé, tu étais comme à la verge de la mort. Là.
Ah, je respirais, je ne sais pas comment, là, mais c'est ça. C'était pas facile. Ah, ouais. c'est moi le client zéro, là, le patient zéro.
Bon, ben, je suis content de savoir que là, ça va un petit peu mieux. En tout cas, ça t'a l'air de mieux sonner. Là.
Oui, je sonne pas mal mieux. Là. Je sonne radiophonique.
Yes, sir. À soir, on dirait que, vu que Jean-Francis n'était pas là, je sais pas si tu t'as fait ça en connaissance de cause ou pas, mais tu as comme choisi des histoires qui sont, on dirait spécialement pour moi, des histoires de bois, de montagne un peu.
Mais moi, je suis de même. Tu sais, j'aime ça, le théâtre. Là. Fait que oui, j'ai retravaillé mes affaires. Je m'en allais dans cette direction-là, mais je l'ai affiné pour fitter avec toi. Là, tu sais. Je te vois aller sur les réseaux. Là. Je sais que tu te promènes pas mal dans le bois. Fait que j'ai décidé d'essayer de te faire peur un peu.
Puis d'ailleurs, avant de commencer, parlant de réseaux, si nos auditeurs qui viennent de se plugger veulent te suivre sur les réseaux, on va y aller direct en partant. Max Dionne partout, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Sur TikTok aussi?
TikTok, ouais, Instagram, c'est ça, Spotify, là, tout, pas mal partout. Là.
All around the world, fait que allez vous abonner à Max.
Ah ouais, ben c'est ça, écoute, je sais pas si vous connaissez le Missing 411, Missing 411. Là.
Non.
Ça, c'est des disparitions, OK, qui arrivent souvent dans des parcs nationaux. Puis dans le fond, ben, OK, Missing 411, c'est quoi? C'est un gars qui a parti ça, ce projet-là, qui s'appelle David Pollide. OK, lui, c'est un ancien détective de police américaine. Puis à un certain moment, il a décidé de commencer à s'intéresser à ça, aux personnes qui disparaissaient dans les parcs nationaux d'Amérique du Nord. Donc, ça touche autant le Canada que les États-Unis. De là, le 411, parce que c'est vraiment le numéro de téléphone, là, quand vous appelez là, autant aux États qu'au Canada, ça fonctionne.
OK, c'est pour signaler une disparition, mettons.
Je pense que c'est plus un numéro informatif, là, tu sais, les pages jaunes, là, tu sais.
Ah, ben oui.
Fait que c'est de là que vient le nom, mais Missing 411. Puis, ben, dans le fond, ben, c'est ça. Il faut savoir une chose, là, c'est que chaque année, il y a des centaines de personnes qui disparaissent dans les parcs nationaux. Les plus connus, là, aux États, là, Yellowstone. Puis Yellowstone, c'est pas. Oui, c'est en.
C'est au Wyoming. J'y vais dans deux semaines.
OK, bon, parfait. Puis, il faudrait que tu reviennes. Yosemite, tous, tu sais, les gros parcs nationaux. Puis, la plupart du temps, ben, c'est explicable, les disparitions. C'est des gens qui se perdent, qui chutent ou qui vont se faire attaquer par un animal sauvage, exact. Mais Pollide, lui, ben, il a remarqué un motif qui était récurrent pour une petite portion des disparitions qui sont tout simplement inexplicables. Puis c'est des cas qui défient quand même la logique. Tu sais, les cas que je vais vous raconter, c'est des cas réels. Les fiches des personnes disparues sont encore disponibles. C'est des unsolved cases. Là. Fait que lui, il a commencé à répertorier ça, puis il en a même fait des livres. Il y a des documentaires que je pense que c'est disponible sur Apple TV, Amazon Prime. Fait que si ceux que ça intéresse pourront aller voir ça. Mais c'est ça. Quand ça devient troublant, les cas, c'est qu'il a identifié des points communs entre certaines disparitions. C'est des gens qui disparaissent soit près de l'eau, souvent c'est des enfants, ou, puis c'est même des personnes qu'on va retrouver, OK, mais dans des zones qui ont déjà été fouillées plusieurs fois. Des disparitions qui sont tellement soudaines là, qu'on dirait que la personne a juste été comme pris, puis, tu sais, arraché du sol. Des vêtements, des bottes qui sont retrouvés à des kilomètres du dernier point connu de ces gens-là. Puis parfois, même, les vêtements sont pliés. Oh. Et là, ben, lui, dans le fond, là, dans ces trucs, il ne propose aucune explication. Fait que, tu sais, aujourd'hui, il n'y aura pas de debunk ou quoi que ce soit parce que c'est des cas non résolus. Fait que je tenais juste à faire cette petite parenthèse avant de commencer. Je ne sais pas si tu connais le mont Shasta.
Ben oui, j'ai déjà failli le grimper en Californie, le mont Shasta, qui est un genre de gros super volcan là, qui est ça à coche, mais on voulait aller le grimper, on a juste manqué de temps dans notre itinéraire, c'était un peu trop loin.
Nice. Fait que notre premier cas, c'est là, dans le fond, OK, c'est on est en mai 1999 sur le mont Shasta, je ne suis pas capable de dire ça, en Californie. Puis, comme tu disais, c'est un volcan endormi, OK, qui culmine à genre 4300 mètres d'altitude. Là. C'est une montagne, c'est immense, c'est mythique.
C'est le deuxième plus haut point de la Californie, si je ne me trompe pas, là, ou du moins dans les plus hauts points, là.
Oui, c'est ça. Comme tu le disais, là, c'est vraiment un lieu là, de prédilection là, pour les randonneurs. Là. Donc, on a notre bonhomme là, qui s'appelle Carl Landers. Okay? C'est exactement ce type de personne-là. Là. C'est un grimpeur d'expérience. Il est à la retraite. Il est en excellente forme physique. Sa passion dans la vie, ben, c'est la montagne. Et il y a deux amis proches avec lui qui grimpent constamment. Et cet été-là, ben, son objectif personnel, ça va être d'atteindre le sommet du mont. Et il avait déjà tenté auparavant, mais sans succès. Donc, le trio va s'organiser l'ascension. Le plan est classique. On monte jusqu'à un point qui est appelé Lake Ellen, à environ 3200 mètres. Ils vont camper là pour la nuit afin de laisser le temps à leur corps de s'acclimater, dans le fond, à l'altitude. Là. Puis ensuite, attaquer le dernier tronçon vers le sommet au petit matin. Donc, dès leur arrivée au Lake Ellen, Carl commence à être un peu mal en point. Il y a le mal des montagnes, là, ça le frappe fort. Il est faible, il y a de la nausée, il passe une nuit vraiment horrible, il est à peine capable de dormir. Et là, au petit matin, ben, malgré son état, il reste déterminé, il est allé là avec ses chums, il va absolument monter. Là.
Parce que ce que tu nous décris là, ça peut quand même être des symptômes de début de mal de l'altitude, là.
Oui, ben écoute, tu le sais plus que moi, là, je suis pas un randonneur. à mes heures, là, ça arrive des fois que je prenne marche, là, mais sinon, c'est assez
mais,
calme.
Mais ouais, mais mal filé de même, des nausées, puis c'est très, très, très mal de l'altitude. Okay. Parce que c'est comme ça que ça sonne à mon oreille.
Il faut comprendre que le bonhomme a 69 ans quand même. Là. On dit qu'il est en forme et tout ça. Est-ce que ça peut jouer, je sais pas.
En plus forme que de bonhomme de 69 ans.
Ouais, c'est ça. Fait que Carl, il est quand même déterminé à continuer son aventure. Il va dire à ses deux amis, écoutez, tu sais, je suis déjà debout, je vais prendre de l'avance. Il reste juste comme 200 mètres de dénivelé jusqu'au sommet. Fait que je vais monter seul, j'atteins ça, puis je reviens. Fait que ses amis hésitent quand même un peu, mais tu sais, Carl, il n'en est pas à ses premières fois. Fait que c'est pas une distance énorme non plus, là. On parle de 200 mètres de dénivelé, je ne sais pas, ça peut représenter quoi, là, ce qu'il lui restait à faire, mais tu sais, ce n'est pas une expédition d'une journée.
Non, c'est peut-être un ou deux kilomètres, là, quelques heures, gros max.
Fait que tu sais, il va même laisser son sac à dos au campement, là. Il part seul. Et là, ben, ses deux amis le regardent contourner la montagne, il amorce sa dernière montée, c'est la dernière fois qu'il le voit. 30 minutes plus tard, il y a un de ses deux amis qui décide, ben, qui comme trop malade, il va, lui, rester au camp. Il va décider de rester au camp. Et l'autre va partir faire le sommet en suivant exactement le même sentier que Carl avait fait. Et là, ben, il atteint le sommet. Mais il n'y a aucune trace de Carl. Et là, il va commencer à penser que c'est un peu étrange parce qu'il aurait dû se croiser. Mais il se dit que peut-être que Carl s'est peut-être assis quelque part en route, ils se sont pas vus, puis il est redescendu. Donc, il va redescendre lui aussi, mais toujours sans croiser Carl. Il retourne au campement, et là, il arrive, il demande à son ami, « Carl, es-tu revenu? » Et là, son ami lui répond, « Non. » Là, les deux hommes, ils comprennent que quelque chose qui va pas du tout, là, parce qu'il faut quand même que je vous fasse visualiser le sentier. C'est complètement découvert. Il n'y a pas de crevasse, il n'y a pas de falaise. Il n'y a pratiquement aucune végétation. C'est une pente qui est ouverte. Là. C'est visible de loin. Il y a littéralement nulle part où tu peux disparaître, où tu peux te cacher.
Puis s'il y avait eu là, une avalanche ou quelque chose du genre, il l'aurait vu, il l'aurait entendu. Là.
Ben oui, effectivement. Là. Donc là, ils vont alerter les secours. Il y a une opération de recherche qui, massive là, qui va être déployée ce jour-là. Environ, on dit, entre 50 et 100 personnes dans le secteur. Il y avait même d'autres randonneurs. Là. Ils ne sont pas tout seuls, les gars. Là. Ces sentiers-là sont quand même achalandés. Là. Tu pourras peut-être me confirmer la chose. Là. Mais il y a d'autres groupes qui sont là. Donc, tout le monde va être interrogé et personne n'a vu Carl. Personne ne se souvient d'avoir croisé qui que ce soit qui correspond à sa description dans le sentier. La seule indice qu'on a de Carl, c'est son sac à dos qu'il a laissé au campement. Parce qu'on ne retrouvera absolument rien de Carl. Et ça, ça fait, c'est en 99, donc 26 ans plus tard, il n'y a toujours aucune trace. On n'a retrouvé aucun ossement, aucun vêtement, absolument rien. C'est comme... Tu sais, tu vois là, que c'est comme plus creepy encore qu'une histoire d'alien ou peu importe.
Ben oui. Puis...
Parce que c'est un cas réel. Le gars est disparu. En si peu de chemin, là, c'est complètement, ça me... Je sais pas. Tu sais,
le sommet pour visualiser la montagne, c'est un sommet comme de volcan. C'est rond, c'est plat, c'est enneigé. Tu peux pas perdre quelqu'un là, c'est... C'est comme si tu mettais quelqu'un sur le top d'un banc de neige. Là. À moins que ça ait tombé dans le banc de neige, même à ça, à un moment donné, la neige va fondre, on va le retrouver. Là. C'est...
Exact. Non, c'est ça. C'est assez spécial. Hey. Puis tu sais, en faisant les recherches sur cet écho-là, parce que c'est un auditeur qui m'avait envoyé ça à un moment donné, qui m'avait dit « Hey, tu regarderas ça, Missing 411. » Puis j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Tu sais, je me disais « Ça marche un peu moins avec mes affaires. » Mais tu sais, en cherchant là-dessus, puis tout ça, je suis tombé sur une map, OK, de toutes les cases qui sont recensées Missing 411. Puis... En dessous, ce que je voyais, c'était une map avec tous les grottes.
Ah.
Puis, bizarrement, là, si tu mets les deux une par-dessus l'autre, là, le schéma se ressemble beaucoup.
Oh,
fait que,
ouais.
Ça pourrait peut-être en expliquer parce que c'est sûr et certain qu'il y a des fissures, des grottes, des mini-grottes, des grottes qui descendent, que tu sais, le monde peut glisser, puis c'est clair.
Tombé dans
que jamais...
un trou, Alice.
Ouais, c'est
Alice.
Ça, exact.
Dans le trou du lapin.
En deux cracks, une grosse roche qui tombe, qui peut-être se referme après.
J'en ai une autre pour toi. Le mont, je ne sais pas si je vais être capable de le prononcer comme du monde, là, le mont Rainier.
Oui, le mont Rainier qui est dans l'État de Washington, qui est aussi qui est la montagne la plus proéminente, pas la plus haute, là, mais la plus proéminente donc de sa base à sa hauteur des États-Unis continentales, quand on enlève l'Alaska. Quand même un mastodonte qui est pas loin du mont Sainte-Hélène. Qu'on connaît pour
explosé,
sa massive explosion.
Ouais.
Là, ouais, très, très exact. Grosse montagne. Elle, par contre, on parle de plus dangereux là, que le Shasta. Là-dedans, il y a des glaciers, il y a des crevasses, puis il y a de quoi perdre quelqu'un.
OK. Ben, on pourra voir si on est capable d'essayer de trouver une solution à cette disparition.
Yes, sir. Vas-y.
On est en 2010, OK. La personne s'appelle Eric Lewis. Lui a 57 ans. Puis, ben, c'est lui aussi là, un alpiniste extrêmement expérimenté. Il a deux amis proches du même calibre que lui et ensemble, ben, ils vont décider d'entreprendre l'ascension technique et exigeante du mont Rainier. C'est ce qu'on dit, là. Puis, comme je pense que tu l'as confirmé avant que je le dise. L'itinéraire qu'ils ont choisi, OK, il est assez dangereux pour qu'il soit obligé d'être encordé. Et puis là, tu pourras me corriger, là, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient reliés tous les trois à la même corde de sécurité.
Ouais,
et là, j'ai écouté Apex dernièrement. Là, fait que moi, c'est les images que je vois là, à la fin.
Ouais, mais là, tu sais, quand on parle d'encorder dans des graines comme ça, c'est vraiment question que si quelqu'un tombe dans une crevasse, il soit accroché aux autres. Fait que là, les autres, à ce moment-là, eux, vont rester à surface, vont comme se garrocher à terre puis s'ancrer avec leur pioche pour éviter que la personne tombe plus creux dans la crevasse. C'est, okay. Tu sais, des fois, on peut penser, mettons, à s'encorder en type d'escalade là, pour que si tu tombes, la corde te rattrape. Mais là, c'est vraiment du cordage de randonnée glaciaire. C'est se corder un après l'autre pour éviter que si quelqu'un tombe d'un trou, ben on le perde dans le fond du trou.
OK. C'est quand même intéressant. Écoute, je ne savais pas du tout. Là. Moi, je pensais que c'était vraiment, comme tu dis, là, pour les monter. Là. Bon, ben écoute, ça nous met encore plus de détails. Donc, ils sont tous encordés, OK, les trois ensemble. Et là, ben, le premier grimpeur va ouvrir la voie en tête. Le deuxième va être au milieu. Et Eric, c'est lui qui ferme la marche. Donc, c'est le dernier. Et techniquement, là, le système, OK, c'est que le grimpeur de tête, c'est lui qui va dicter le rythme. Puis quand il va décider de s'arrêter pour se reposer, les deux autres vont monter jusqu'à sa position à lui et ils vont faire une pause avec lui.
Oui.
C'est ça.
Ça fait bien du sens.
Excellent. Donc là, toute la journée, l'ascension va se dérouler normalement. Il n'y a rien d'anormal. Le premier grimpeur s'arrête à des intervalles réguliers. Les deux autres vont le rejoindre. Ils repartent. Il n'y a rien d'inquiétant. Et puis, à un moment donné, le grimpeur de tête va s'arrêter. Le deuxième grimpeur va monter le rejoindre et ils vont attendre qu'Éric arrive. Mais Éric n'arrivera pas. Et là, ils vont tirer sur la corde. Elle remonte sans aucune résistance. Oh. Elle est vraiment légère, là, trop légère.
Il n'y a pas personne attaché au bout. Là.
C'est ça. Quand ils vont récupérer, ils vont constater que la corde a été coupée et que Éric n'est pas au bout de la corde. Et là, leur première réaction, c'est logique. C'est en alpinisme, on coupe la corde qu'en cas d'urgence absolue. Okay?
Ouais.
Si Éric a coupé la corde, c'est qu'il y avait un problème assez grave. Donc là, ils vont amorcer immédiatement la redescente pour essayer de le trouver. Et il y avait neigé fraîchement ce jour-là. Donc, les traces de pas sont parfaitement visibles. Et c'est là que ça devient assez inexplicable. Parce qu'en redescendant, ils vont suivre les traces et les empreintes d'Éric sont là, celles de la montée. Ils voient clairement ses pas qui suivent ceux des deux autres grimpeurs dans le sens de l'ascension. Mais les empreintes, ils vont s'arrêter net, au point exact où ils pensent que la corde a été coupée. Et il n'y a aucune trace de redescente, aucune trace qui s'écarte du sentier, il n'y a rien. C'est comme si, je le disais tantôt, c'est comme si Éric avait été soulevé à la verticale.
Genre des extraterrestres?
Je sais pas. Donc là, les conditions météo vont se détériorer et là, les deux amis qui restent, ben, ils sont forcés comme d'abandonner un peu puis ils redescendent à alerter les secours. Encore là, une opération de recherche va être lancée. Et quand ils vont se mettre à explorer les environs, les sauveteurs vont faire une découverte qui est vraiment bizarre. À environ 60 mètres en contrebas, okay, à l'écart du sentier d'ascension, ils vont trouver une caverne de glace, qui est une grotte qui est vraiment difficile d'accès dans une direction où il n'y avait absolument aucune raison logique pour Éric de se diriger là. Mm-hmm. Et là, à l'intérieur de la grotte, profondément, ils vont retrouver tout l'équipement d'Éric. Pas accroché à l'entrée ou genre sur le bord, là, à l'intérieur. Comme si quelqu'un avait vraiment mis ça délibérément à cet endroit-là.
Juste l'équipement?
Juste l'équipement. Éric, aucune trace. Il n'y a même aucune empreinte qui mène à la grotte. Il n'y a rien dans la neige fraîche. Et son corps n'a jamais été retrouvé.
Sais-tu comment ça me sonne, moi, des histoires de même?
Je sais pas. Vas-y.
C'est ma théorie à Saint-Saëns, là. Mais ça sonne, là, la journée que les trois gars sont partis, en fait, il était rien que deux, puis ils avaient déjà tué le chumé, ils avaient déjà été porter le stock dans le fond, puis ils ont caché le cadavre ailleurs.
Ouais, mais ces cas-là sont documentés. T'sais, c'est sûr qu'il peut tout le temps avoir des bévues, surtout quand il y a beaucoup de personnes qui sont là pour chercher parce que ça brouille les pistes, là, tout le monde fait n'importe quoi. Mais tu sais, dans le récit, on dit qu'il n'y avait pas de traces. Est-ce que la recherche a commencé assez rapidement? Tu sais, on parlait d'une forte météo, est-ce que ça a effacé les traces? Mais tu sais, son corps n'a jamais été retrouvé. Y a-tu glissé dans cette caverne-là? Mais à la base, pourquoi il a coupé sa corde? Tu sais, puis ouais, je le répète parce que c'est important. Parce que souvent, les histoires que je raconte sont basées sur des témoignages. Là, on a des vraies preuves physiques, des faits documentés. Fait que, tu sais, c'est bizarre d'apporter des hypothèses Mais comme tu dis, est-ce qu'ils ont tué leur ami? Mais pourquoi? Il y avait, je sais pas, là, dans l'histoire, ça dit pas s'il avait couché avec la femme de l'autre. Là, tu comprends?
Mais tu sais, qui se ramasse dans la grotte, pourquoi il enlève son linge, son équipement? Pourquoi il laisse ça là? Tu sais, s'il est en train de mourir, tu t'abandonnes pas ton équipement.
Ouais.
Dans
des cas d'hypothermie, comme le Dyatlov Pass,
ouais.
Je sais pas si. Je me rappelle pas si c'est parce qu'il y en a qui ont fait de l'hypothermie. Je pense que ce sont des habillés plus bas ou c'est un autre cas. Là. Mais ouais. Tu sais, c'est ça, le monde trouve ça bizarre. Et, pourquoi ils sont tout nus? Ben, c'est parce que quand tu te dévêtis parce que tu as l'impression que tu as chaud. Je sais pas. T'sais, est-ce qu'il y a eu un malaise? Il pensait s'évanouir, il a coupé sa corde pour sauver ses amis ou quoi que ce soit. Puis c'est un cas. Mais tu sais, le corps jamais retrouvé, c'est ça qui est fucked up. Là. C'est comme, il est où son corps? T'sais?
Surtout quand on sait où il est disparu, dans un endroit précis comme ça, t'sais, j'imagine, sur le long de la route, c'est fou qu'on soit pas capable de retrouver. Ça doit tellement... Là, moi, je pense aux familles de ces gens-là qui doivent être tellement hantés à tout jamais de ne pas savoir ce qui est arrivé à leurs proches.
C'est clair.
Ah non, c'est sûr. Là, c'est matin, midi, soir. Là, tu y penses tout le temps. Là, ça, c'est sûr et certain. Là. Mais tu sais, dans le premier cas, on comprend que dans l'histoire, c'est encore plus troublant parce que c'était à pleine vue. Tu sais, il n'y a aucun endroit. Là, celui-là, ben, il y a des crevasses, comme tu dis, des choses. Il a-tu glissé? Mais de retrouver son stock...
Ouais,
à la même place, puis lui est juste pas là, là.
Qui était cordé aussi par la. Puis tu sais, le Mont Rainier aussi, c'est un endroit où il passe beaucoup de monde. Là. Fait que si, mettons, il a laissé son stock-là, il est parti à la course pour descendre. Il y a bien du monde qui aurait vu un gars descendre tout nu, là.
C'est sûr.
Un auditeur propose, le gars a-t-il simulé sa disparition? Toi qui viraille là-dedans, penses-tu que ça se fait simuler sa disparition ben de même?
Ben écoute, tu sais, c'est ça, là. C'est les cas tels que je les ai sortis. Est-ce que de jouer à l'enquêteur, on pourrait réussir à trouver, tu sais, mais j'imagine que ça a déjà été fait. Tu sais, je vais te parler rapidement d'un cas, là, sans tout raconter ensuite, mais tu sais, tu vas voir que des fois, les enquêtes, c'est pas comme on pense que c'est dans une télésérie, là. Tu sais, les enquêteurs sont pas tout le temps sur la coche. Là.
Ouais.
Il y a des erreurs qui se font puis qui doivent laisser place peut-être à de l'inexpliqué parce que ça a été mal fait.
Ouais, il y a des crétins dans tout.
Mais tu sais, le gars, je veux dire, il disparaît. En tout cas, peut-être. C'est une hypothèse comme un autre. Pourquoi pas? T'sais, il a coupé sa corde, il a mis son stock-là, faire penser. C'est plus simple de disparaître sans sang, sans trace, sans rien, là. Je sais pas, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Là. Il y a peut-être des dettes de puis il veut disparaître. Ou.
C'est ça qui est la beauté des cas, des unsolved mysteries, des cas non réglés.
Est-ce qu'Elvis et Michael Jackson sont toujours vivants? C'est ça. Ils sont sur le Dark Side of the Moon, je sais pas.
Où est le tombeau de Samuel de Champlain? On se posait la question un peu plus tôt dans le show, on le sait pas. On le sait pas.
Mystère
et boule de gomme. Mm. Mais tu sais, c'est ça, dans ces cas-là, il y en a un autre, OK, je ne l'ai pas complété, mais tu sais, je peux t'en parler rapidement. C'est un cas qui est super connu, peut-être ça va dire quelque chose à certaines personnes. C'est la disparition d'un petit gars, excuse-moi, Dennis Martin.
Ah, c'est un nom qui me dit quoi?
En 1969, c'est un petit gars de 6 ans, 6-7 ans, là, certains... Truc disait 7 ans, d'autres 6, mais comme il allait avoir 7 dans 2-3 semaines. Lui était parti, OK, avec son père, son frère, si je me souviens bien, dans les Great Smoky Mountains, OK, dans le parc national, là, c'est comme entre le Tennessee et la Caroline du Nord.
Oui.
Fait que c'est ça, il est parti là, c'est pas son frère, excusez, c'est son père, son grand-père et son frère. Fait que eux sont 4, OK, son frère a 9 ans, puis ben son grand-père a l'âge d'un grand-père, puis son père, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Eux, ils s'en vont là, OK, pour faire, c'est dans le fond, c'est la Appalachian Trail, là, OK, ouais. C'est un bout de la Appalachian Trail. Eux s'en vont se promener là, puis ils vont rencontrer une autre famille qui ont le même nom de famille que eux, là, Martin. Puis il y a deux des gars, je pense, qui ont le même nom, là, deux Douglas ou quelque chose
comme ça. Ricky Martin.
le petit gars, dans le fond, là, les deux groupes... c'est pas facile, hein, c'est décousu, mon enfant.
on suit.
OK. Dans le fond, les deux groupes vont se joindre ensemble, OK? Les deux groupes de pères, de petits gars et tout ça, pour continuer l'aventure ensemble parce qu'ils ont un bout de trail à faire. Le lendemain matin, quand ils vont décider de partir, les plus vieux enfants du groupe, là, des deux familles, vont décider d'aller se cacher plus loin dans les buissons pour faire un saut aux plus vieux. Mm-hmm. Et là, ils vont dire aux plus jeunes, ils vont dire à Denis, parce qu'ils ont peur qu'il gâche la joke, là, tu sais, puis en sortant à l'avance. Là. Fait qu'ils vont lui dire, ah, ben va de l'autre bord. Mais là, Denis, il ne ressortira jamais du buisson pour faire la joke. Et puis là, ça va prendre comme 2-3 minutes avant que son père commence un peu à capoter puis se rende compte qu'il y a de quoi de pas normal. Il va commencer à crier son nom, il va chercher un petit peu partout autour. Et ben là, Denis, il est pas là.
Pendant ce temps-là, Denis, il dit « Je vous l'avais dit, je n'allais pas gâcher la joke! »
Ouais, c'est ça. Puis dans cette histoire-là, OK, là, il va avoir, on dit là, jusqu'à un moment, pendant la recherche, jusqu'à 1400 personnes. Fait que tu sais, tantôt, quand je te disais, quand il y a trop de monde, c'est pas mieux parce que là, t'es face des traces, tu as du monde qui ne savent pas pantoute ce qu'ils font là. Puis dans ce Missing 411-là, parce que c'est un cas aussi de ça, il y a plein d'affaires vraiment intéressantes. Ça a pris 53 ans avec le FBI release les files, les documents de ce cas-là. Ils n'ont jamais voulu les sortir, même avec la demande de l'accès à l'information, pendant 53 ans. Puis il y a plusieurs pages qui sont hachurées. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait des suspects en ligne, parce qu'on a même des gens qui disent qu'ils ont vu... on a un groupe de personnes qui étaient à genre 6 km de là, qui ont dit qu'ils ont vu un genre d'homme passer avec quelque chose sous l'épaule. Mais la distance entre les deux, selon la date, l'heure de disparition de Denis et l'heure de ce que le gars a vu, avec la distance à parcourir, ça se fait, là, mais genre vraiment sur la côte.
Juste par un Sasquatch.
C'est ça, juste par un Sasquatch. Je te lis dans mes pensées. Les enfants qui ont vu la chose passer, eux disent que c'est un ours. Et ben, le père de famille lui dit que c'est un homme debout. Fait que est-ce qu'on peut rejoindre les deux, tu sais, à mi-chemin, ouais. Un homme ours? Il y en a une autre personne aussi qui était un petit peu plus loin, qui a entendu un cri, mais pas un cri d'enfant ou d'humain. Là. Vraiment un cri vraiment bizarre, guttural.
Un cri de Sasquatch.
On a même, sur ce cas-là, okay, dans les recherches, on a même envoyé les bérets verts. Les bérets verts qui n'étaient pas loin, c'était des gars qui revenaient du Vietnam, puis ils faisaient des entraînements dans le parc national. Sont allés sur place pour chercher, pour aider à rechercher, mais ils sont rentrés dans le bois armés.
Ouais, ça peut-tu peut-être effrayer un enfant ou effrayer le monde?
Ben, je sais pas. Eux ont dit que c'était à cause qu'il y avait des bêtes sauvages, mais tu sais. En tout cas, peut-être que c'est juste louche. Parce que tu sais, ouais. Y avait leur gun, puis ben, pourquoi pas les apporter, tu sais. Fait que, ouais. Tu sais, ouais, ce cas-là, ils ont jamais retrouvé le petit gars. C'est comme je te dis, là, tu sais, j'aurais pu détailler ça beaucoup plus, là, mais tu sais, je suis en train de préparer cette histoire-là. Il y a beaucoup d'aspects bizarres dans ça, qui n'est pas juste la disparition, là, mais tout le fait autour qui vient comme créer quasiment une légende. Là. T'sais, parce qu'au final, c'est un petit gars qui a probablement disparu, mais t'sais, comme vu que le FBI ne sort pas les documents, ben là, ça attire un peu la suspicion et tout ça. Il y a aussi, tu sais, un des agents du FBI qui avait travaillé sur l'enquête qui s'est suicidé. On a dit que ça n'avait pas rapport, mais ça vient comme tout rajouter à cette histoire-là. Puis, si je me souviens bien, le dossier est encore ouvert dans les services de parcs nationaux. Puis, il est encore classé comme disparition non résolue. Si jamais vous tapez sur Google « Denis Martin », vous allez voir sa fiche, le petit gars. C'est vraiment triste. Mais c'est ça, des cas comme ça, là, il y en a des dizaines, des centaines, puis il y en a des plus étranges que d'autres. mais je trouvais ça vraiment particulier. Puis je me disais que ça allait fitter un peu avec tes activités extra-professionnelles.
Ben c'est très, très hot. Et comme d'habitude, c'est passionnant, fascinant. Si jamais on veut entendre l'histoire de Dennis Martin prochainement et tout plein d'autres histoires de tout genre, on te retrouve partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, où tu fais du gros stock malade, sur Facebook, sur Instagram. T'es partout, Max Dionne.
Max Dionne, partout, partout. Fait que abonnez-vous, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez pas me faire. Vous abonner, écouter les vidéos, laisser un petit like, un commentaire, ça va me faire plaisir.
Yes, sir, et c'est des heures de bon contenu garanti. Max, un gros merci d'avoir été avec nous encore ce soir.
Hey, merci à vous autres.
Salut, bonne soirée.
Bye.
Bye, bonne soirée.
Max Dionne, mesdames et messieurs, qui est le professionnel, je le dirais bien de même, du paranormal et de l'inexpliqué. Vraiment un très, très, très cool guy avec qui on adore jaser à toutes les deux semaines. Pas trop traumatisé, toi?
Non, mais je me sens comme dans... Tu sais, comme t'es au camp, hein? Puis là,
ouais,
tu
autour
racontes
du feu, hein?
Des légendes au camp de scouts. Peur. C'est comme rester proche parce que sinon, vous allez disparaître. Le Sasquatch va vous bouffer.
La légende du petit Denis.
Exact. Tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, puis c'est tout aux États-Unis, ces affaires-là?
Ouais. Tout dans des endroits... Pas là. Où je veux aller ou où je suis déjà allé.
Non, c'est assez peurant.
Hey, le Spacecast, on est là avec vous jusqu'à 22h, encore quelques minutes. Au retour de la pause, on jase encore un petit peu, puis on se dit bye-bye.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.